nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Colonel Ray!
Bravo!
Oh, je suis si content de vous voir!
Oh, mon vieil ami, quelle bonne surprise!
Oui. Oh, je crois que je ne vous ai pas vu depuis. Oh, cette étrange affaire de ce prêtre décapité.
Oui, 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 oui.
Je crois que vous avez eu beaucoup de chance de trouver ce couteau sur le bord de la cheminée, non?
De la chance? Ah non, je vais seulement travailler ma matière grise. La chance, je laisse ça aux autres.
Oui, j'avais oublié votre bonne opinion de vous-même.
Oui.
Puis-je vous demander ce que vous faites ici?
Uniquement en vacances. Mais je dois bientôt remonter le Nil en vapeur. Et vous?
L'eau, la même chose que vous.
En d'autres termes, vous devez suivre un des passagers.
Non, non, uniquement en vacances, mon ami. Tout comme vous, hein?
Oui.
Le Nil est aujourd'hui l'axe touristique par excellence. C'est d'abord lieu de croisière, comme cette croisière improbable du Mort sur le Nil, roman d'Agatha Christie écrit en 1937, qui inspira à John Guillermin son film, avec Peter Ustinov, membre associé étranger de l'Académie des Beaux-Arts, dans le rôle de Hercule Poirot, Jane Birkin et David Niven. Mais le Nil fut peu avant, au XIXe siècle, l'objet de toutes les attentions géopolitiques, en particulier les sources du Nil. Sources du Nil, nœuds gordiens que les explorateurs occidentaux du XIXe siècle ont tenté, à force d'expéditions de démêler, dont le but évidemment de départager les eaux entre leurs colonies. Il fut longtemps difficile en effet de déterminer laquelle des rivières qui se jettent dans le lac Victoria peut être déterminée comme l'amont du Nil. Dans un récit datant de 1869, à 30 ans de la crise de Fashoda, un explorateur britannique, Sir Samuel Baker, raconte son expédition dans le lac Albert, nouveau voyage aux sources du Nil.
À la distance d'une centaine de mètres, je reconnus mon vieil ami Speckeux et, le cœur battant de joie, j'ôtai mon bonnet et criai « Hurrah !» de toutes mes forces en courant vers lui. Il ne me reconnut pas tout de suite. Une barbe et une moustache de 10 ans m'avaient changé. D'ailleurs, comme Speckeux ne s'attendait pas à me rencontrer, mon apparition soudaine dans le centre de l'Afrique lui semblait incroyable. Il était presque inutile pour lui de me présenter à son camarade, car déjà nous nous sentions amis intimes. Après les transports de cette heureuse rencontre, nous nous dirigeâmes vers mon bateau au milieu des nuages de fumée provenant des salves que faisaient mes gens. Dès que j'eus rencontré les voyageurs, ma première impression fut que mon expédition était par cela même terminée, attendu que les sources du Nil me semblaient découvertes. Mais lorsque je les félicitais de l'honneur qu'ils avaient si noblement acquis, ils me donnèrent avec la plus grande générosité un tracé de leur voyage, montrant qu'ils n'avaient pu compléter l'exploration du Nil proprement dit, et qu'une partie très importante du haut cours du fleuve restait encore à déterminer. Speckeux exprimait sa conviction qu'un petit lac qu'il appelait le Louta Nzigué était une seconde source du Nil et que les géographes apprendraient avec une sorte de désappointement qu'ils ne l'avaient pas exploré. Pour moi, cette nouvelle était excellente. Je m'étais sentie découragée à l'idée que le grand œuvre était accompli et qu'il ne restait plus rien à découvrir. J'avais même dit à Speckeux « N'y a-t-il donc pas la moindre feuille de laurier pour moi ?» Maintenant, j'apprenais non seulement que le champ était encore ouvert, mais que le voyage d'exploration prenait un nouveau caractère d'intérêt. Car le Nil sortait d'un grand lac, le lac Victoria, mais évidemment, il se grossissait des eaux d'un autre lac encore inconnu dans lequel il entrait à l'extrémité nord, tandis que la partie principale du lac venait du sud. Le fait qu'une immense masse d'eau comme le Louta Nzigué s'étendait en ligne directe du sud au nord, tandis que le système général du Nil suivait la même direction, prouvait, de la manière la plus certaine, que si le Louta Nzigué avait la forme qu'on lui supposait, il devait occuper une position importante dans le bassin du Nil. Mon expédition avait déjà été assez coûteuse et j'eus été navré de retourner sans aucun résultat. Je pris donc des mesures immédiates pour mon départ et Speckeux écrivit avec la meilleure grâce dans mon journal des instructions qui pouvaient m'être utiles.
Qu'à Car il ne faut pas parler d'une source, mais de plusieurs sources. Sources actuelles et celles qui ont autrefois alimenté le fleuve par des cours d'eau et des lacs et qui, pour des raisons de climat ou de géologie, se sont séparées du cours du Nil. La source la plus éloignée est le mont Kizizi, au sud du Burundi. Le cours d'eau ne s'appelle pas encore le Nil, mais la rivière Luvironza. Elle est vite grossie par des torrents abondants et devient la Ruvubu, la rivière aux hippopotames. Puis elle rencontre la Nyabarongo, rivière née au Rwanda, elle-même alimentée par les torrents qui coulent depuis les volcans Birunga. L'eau de la Nyabarongo est ainsi chargée du sol volcanique extrêmement riche des volcans Birunga. La violence des pluies arrache la terre des collines, terre qui est ensuite emportée jusqu'en Égypte pour féconder les rives du Nil. Puis la Nyabarongo prend le nom de Kagera, qui veut dire la profonde, et se jette dans le lac Victoria, lac qui porte le nom de la souveraine britannique, car les Anglais y situaient la source de leur Nil. La Kagera abrite crocodiles, hippopotames, éléphants, girafes et tout le bestiaire des chambres mortuaires royales de l'Égypte ancienne. L'ibis, la grue huppée, le flamant rose, les petites outardes, poules du pharaon et des oies. Puis le fleuve traverse le lac Kioga, aux rives mouvantes et aux îles difficilement délimitables, tellement les troncs d'arbres et les herbes se mêlent au limon du fleuve. Le fleuve abandonne ensuite sa longueur pour se jeter avec fureur dans les chutes de Murchison, hautes de 45 mètres. Un spectacle que décrit Sir Samuel Baker, toujours en 1869, dans le lac Albert, nouveau voyage aux sources du Nil.
La rivière continuait à se retrécir jusqu'à près de 180 mètres et quand les avirons cessèrent de ramer, j'entendis distinctement la rumeur d'une chute d'eau. Ce bruit m'avait déjà frappé le matin, mais je croyais que c'était le grondement éloigné du tonnerre. À 10 heures, le courant devenait sensible et la voie de la cataracte grossissait. Après avoir ramé vigoureusement l'espace de 2 heures contre un courant devenant toujours plus fort, nous aperçûmes quelques cabanes de pêcheurs abandonnées à un point où la rivière faisait un angle. Jamais je n'avais vu autant de crocodiles. Ils étaient là des deux côtés, étendus ensemble comme des troncs d'arbres. Sur un des bords, j'en comptais 27, tous de grande taille. Chaque place chauffée par le soleil offrait le même tableau. Depuis le point où nous étions décidément entrés dans le lit du fleuve, nous l'avions trouvé encaissé par des collines assez abruptes, s'élevant jusqu'à une hauteur d'environ 55 mètres. Ici, les falaises étaient encore plus hautes et perpendiculaires. D'après le bruit, je jugeais que nous apercevions les cataractes en tournant le coude du fleuve. Aussi, je commandais aux rameurs d'aller aussi loin que possible. Ils refusèrent d'abord, désirant s'arrêter au village abandonné. C'était là, disait-il, la limite du voyage, et ils ne pouvaient pas s'avancer plus loin. Je leur fis observer que je souhaitais simplement avoir le coup d'œil de la cataracte, et ils ramèrent directement contre le courant, très fort en cet endroit. Dès que nous eûmes doublé l'angle des rochers, le spectacle le plus grandiose s'offrit à nos yeux. Des deux côtés du fleuve s'élevaient à pic des rochers magnifiquement boisés et d'une centaine de mètres de hauteur. Des blocs énormes sortaient au milieu des feuillages, du vert le plus intense, et la rivière précipitant sa masse énorme à travers une échancrure de ce mur naturel, immédiatement vis-à-vis de nous, était comme étranglée dans une écluse d'à peine 50 mètres de largeur. S'élançant avec furie dans ce défilé, elle plongeait d'un seul jet de 35 mètres de hauteur perpendiculaire au fond du gouffre creusé au-dessous. D'une blancheur éblouissante, cette cataracte formait un magnifique contraste avec les noirs rochers qui encaissent le fleuve, tandis que les bananiers sauvages et les palmiers gracieux des tropiques ajoutaient de nouveaux charmes au paysage. C'était là certainement la plus grande cataracte du Nil, et en l'honneur de l'illustre président de la Société royale de géographie, je la nommais la cataracte Murchison, comme étant le trait le plus saillant de tout le cours du fleuve. Les bateliers, auxquels j'avais promis un cadeau de verroterie pour les encourager à s'approcher de la cataracte autant que possible, amenèrent leur canot à 300 mètres à peu près du pied de la chute. Mais la force du courant et les tourbillons les obligèrent de s'arrêter là.
Quelques kilomètres plus loin, après les chutes de Murchison, le fleuve retrouve son calme dans un lac clair et scintillant, le lac Albert. Le Nil est alors à quelques kilomètres de la frontière soudanaise. L'autre source du Nil se trouve en Éthiopie. Les rivières y sont abondantes et atteignent le fleuve à des dates échelonnées, d'où la fameuse crue estivale du Nil. Ce Nil d'Abyssinie est surnommé le Nil bleu. Rappelons que c'est aux sources du Nil bleu que naquirent les premiers êtres vivants il y a 5 millions d'années. Du moins, la couche de limon a permis une très bonne conservation des ossements de ces hominidés. La source la plus lointaine se nomme Petite Abaï. Elle se trouve à une hauteur de 2700 mètres dans les montagnes. La Petite Abaï se jette dans le lac Tana, bordé d'herbes et de papyrus. Puis 50 km plus loin, le Nil se précipite dans les chutes de Tissassat, qui signifie « feu crépitant ». À partir de là, le Nil bleu est quasiment inaccessible sur 1000 km. Il est encaissé dans des vallées profondes, telles un canyon. Le Nil bleu rencontre alors le Bélès, un affluent qui provient de la même région que la Petite Abyei, près du lac Tana. Nous sommes à quelques encablures de la frontière soudanaise. Les Soudanais surnomment le Nil Bahr el-Jebel, le fleuve des montagnes. À bord, au Soudan, le fleuve se transforme en une sorte de mer, le sud, mot arabe qui désigne un barrage de végétaux. Plus d'un bateau et plus d'un explorateur s'y sont embourbés, même les armées des pharaons ne l'ont pas franchi. Et même les hippopotames peuvent s'y trouver empêtrés. Dans ce chaos se développe sans limite le papyrus qui filtre le limon, freine le courant d'eau et provoque son évaporation. Voici la description qu'en fait Roger Lusarche d'Azay, militaire et agent secret français en 1904 dans son voyage sur le Haut-Nil.
La végétation aquatique est tellement exubérante que ni la profondeur du fleuve, ni la violence des crues ne peuvent en arrêter le développement. Il en résulte une agglomération de hautes herbes que des espèces plus petites, poussant au milieu d'elles, viennent resserrer et emmêler davantage encore. Le Set, ou Sud, est le nom donné à cette barrière flottante qui constitue, pour les voyageurs les plus déterminés et les mieux pourvus en moyens de toutes sortes, un obstacle parfois infranchissable. L'embatch est, avec le papyrus, le principal élément de ces massifs herbeux. Comme il croît avec une rapidité étonnante et développe ses racines dans l'eau, il arrive constamment qu'un îlot d'embatch se détache d'une masse plus considérable et, entraîné par le courant, aille s'arrêter un peu plus loin. C'est autour de ce noyau que d'autres herbes flottantes viendront s'amasser et se multiplier, obstruant sur ce point un passage tandis qu'un autre s'ouvre ailleurs. C'est pour cela que l'aspect de ce labyrinthe change sans cesse et qu'il n'est pas de pilote capable de s'y retrouver en profitant des expériences antérieures. Aussi s'engage-t-on fréquemment dans un chenal au bout duquel on se heurte à une muraille d'herbe, il faut alors rebrousser chemin pour chercher une autre voie.
Après 500 km de ce parcours erratique, le Nil débouche dans le lac No, par lequel il est une nouvelle fois épuré, filtré. Il rencontre le Bahr el-Ghazal, la rivière des gazelles. Le fleuve prend alors le nom de Nil el-Abiod, le Nil blanc. À une centaine de kilomètres de là, le Nil Blanc reçoit le Sobat aux eaux boueuses. Ici donc se finit le Nil indompté. Ici se trouve Fashoda, lieu du bras de fer entre expéditions françaises et britanniques en 1898 pour se départager l'Afrique. Le Nil Blanc coule doucement vers Khartoum, suivant une pente très douce. Là, dans la capitale soudanaise, il rencontre enfin le Nil Bleu, un Nil rugissant venant d'Abyssinie. Voici la description qu'en fait de nouveau Roger Lusarge-Dazay dans son voyage sur le Haut-Nil.
La seule curiosité du pays au nord de Khartoum est offerte par le Nil qui, bien que formé de la réunion du Nil Bleu et du Nil Blanc, coule pendant longtemps sans que leurs eaux se mélangent. La différence des colorations reste en effet sensible durant plusieurs kilomètres. Les deux fleuves sont d'ailleurs parfaitement dissemblables tout le long de leur cours. Tandis que le Nil Bleu coule dans un lit ferme, encaissé sur des terrains peu perméables dont la pente est d'environ 1,15 m par kilomètre, le Nil Blanc, au contraire, serpente lentement entre des rives basses, marécageuses et, la plupart du temps, mal délimitées. Aussi, malgré son volume et celui de ses affluents, et bien que les phénomènes de la crue apparaissent pour eux dès la fin de février, le premier îlot du Nil Blanc n'arrive à Khartoum que le 19 mai, alors que le Nil Bleu, dont les eaux ne commencent à monter qu'au milieu de mars, est déjà parvenu au même point le 26 avril. De même, le maximum de la crue se relève à Khartoum le 20 août pour le Nil Bleu et le 12 septembre pour le Nil Blanc.
Et au mois d'août et septembre, la crue du Nil Bleu est si importante qu'elle oblige le Nil Blanc à refluer sur près de 100 km en amont et à inonder les quartiers populaires de la ville d'Omdurman. Après Khartoum, le fleuve s'appelle simplement le Nil. Mis à part l'Atbara, à 310 km en aval, le Nil ne sera alimenté par aucune rivière jusqu'au delta, à 2700 km de Khartoum. Il traverse des steppes, puis un désert total. Le Nil enfin surmonte 6 affleurements de roches dures et y forme des cataractes. Voici le récit qu'en fait Charles Didier dans 500 lieues sur le Nil, écrit en 1858.
Peu de temps après avoir dépassé l'Atbara, on atteignit la 5e cataracte. Le fleuve est très large en cet endroit et perd en profondeur ce qu'il gagne en étendue. On était de plus dans la saison des eaux les plus basses, si bien que ce 5e rapide, très impétueux en tout temps, était alors hérissé de rochers saillants où les flots se brisaient en écume. La Dahabia, fortement chargée d'ivoire, avait un tirant d'eau considérable et son passage à travers ces écueils n'en était que plus difficile. La moindre déviation l'eût infailliblement mise en pièces. Ajoutez à cela que le vent s'était levé et, quoique favorable, gênait beaucoup la manœuvre. Toutes ces circonstances réunies constituaient un véritable danger. Nos 14 rameurs et leurs 14 rames étaient parfaitement inutiles pour nous tirer de ce mauvais pas. Le reis était inquiet et nous consultait pour rejeter sur nous au besoin la responsabilité d'un sinistre. Mon opinion fut qu'il fallait attendre que le vent tombât afin de tenter le passage avec des chances moins favorables. On stationna donc quelque temps au-dessus de la cataracte, mais le vent ne tombait pas et l'impatience s'emparant de tout le monde, on risqua bravement l'aventure. Un silence solennel se fit à bord. L'émotion était générale. Tous les yeux étaient ardemment fixés sur les écueils menaçants qui nous environnaient de toutes parts et dont plus d'un écorcha les flancs de la cange. Cette anxiété dura plusieurs minutes, plusieurs siècles. Mais enfin, grâce à l'adresse du pilote et à l'aide de Dieu, nous sortîmes sains et saufs de ce dangereux défilé et dès qu'il fut franchi, un cri de joie éclata parmi l'équipage. Ce péril passé, la fin du voyage n'était plus qu'une promenade. Nous approchions de Beber et rien d'intéressant ne s'offrait plus à mes yeux. Le vent nous emportait rapidement et les rames étaient oisives, comme elles l'avaient été pendant presque tout le voyage. Jamais navigation ne fut plus heureuse.
Selon le dictionnaire de l'Antiquité, dirigé par Jean Leclan et publié tout récemment, le Nil a été nommé par les Grecs qui appelaient le fleuve Nélos. Les anciens Égyptiens préféraient parler de grand flot. D'autres dictionnaires font remonter l'appellation Nil à l'hébreu Nahal, qui signifie vallée et par extension rivière ou fleuve. D'après le dictionnaire de géographie datant de 1847 sous la direction de Béraud, les anciens Égyptiens nommaient leur fleuve Aour, dont la forme moderne copte donne Yaro, et dont la forme hébraïque donne Sior, qui signifie noir, noir comme le limon, la terre fertile. Sans le Nil et sa crue annuelle, le Sahara s'étendrait jusqu'à la mer Rouge et l'Égypte ressemblerait fortement à la Libye. Cette crue, longtemps considérée comme miraculeuse car inexpliquée, est traditionnellement fêtée au Caire dans la nuit du 17 au 18 juin. Elle est surnommée la nuit de la goutte, symbole de la larme d'Isis qui féconde le fleuve. Avant la construction du barrage d'Assouan, la crue pouvait augmenter de 6 à 8 mètres le lit du fleuve. Le limon est alors d'une densité de 1000 grammes par mètre cube contre 25 grammes le reste de l'année. Un limon très bénéfique évidemment pour l'agriculture. Ce n'est pas étonnant si Hérodote parlait de l'Égypte comme un don du fleuve. Les Égyptiens n'avaient pas pour autant divinisé le fleuve en tant que tel. Le dieu Api était plutôt l'essence dynamique du fleuve. Api est androgyne, aux formes plantureuses et à la poitrine tombante. Il est vêtu d'un pagne de pêcheur et s'abrite dans une caverne située à Assouan. Au Caire également se trouve une autre maison de Api. On y chantait un hymne au Nil et on y disposait des offrandes, fruits, pâtisseries, amulettes, figurines féminines pour vivifier la puissance du fleuve et en même temps demander sa clémence. Selon Catherine Mayer-Jewen, qui est professeure à l'Institut national des langues et civilisations orientales, les crocodiles occupent également une place proche de la divinité. Pour expliquer la rareté des crocodiles en Basse-Égypte, les voyageurs européens et arabes racontaient, depuis le XIIe siècle au moins, que les anciens Égyptiens avaient enfoui un talisman pour neutraliser l'animal redouté. Il s'agissait en fait de la réminiscence de légendes de l'Égypte ptolémaïque, d'Horus au crocodile. Avec le christianisme, puis l'islam, surviennent les saints d'Égypte qui souvent savent dompter les crocodiles. Ce miracle cependant ne remplaça jamais tout à fait la fameuse légende du talisman. Aujourd'hui, l'écrivain, le cinéaste, le rêveur, le poète trouvent dans le Nil leur source d'inspiration. Les écrivains égyptiens, évidemment, ne peuvent échapper aux cours d'eau qui fondent, structurent, alimentent leur pays. Ainsi, Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature, a écrit « Dérive sur le Nil ». L'écrivain campe le récit dans une péniche, une sorte de maison flottante, « Awama » en arabe, dont le ponton est amarré aux berges du Nil. La maison, construite de planches de bois, est utilisée le plus souvent comme lieu de rendez-vous ou de prostitution. Voici un court extrait du roman.
Anis s'accouda à la balustrade pour contempler le paisible coucher de soleil. La brise le caressait, légère, s'insinuant par l'échancrure de sa galabia, apportant dans un parfum d'eau et de plantes la voix d'Amamdou qui disait la prière non loin de la péniche. La saveur du café sans sucre était encore sur ses lèvres. Son imagination était encore pleine de la vision d'Ibn Touloum, qui avait parcouru son époque quelques heures auparavant, juste avant la sieste. Pendant le court laps de temps qui suivait l'absorption du café et qui précédait l'extase, il s'attendait d'habitude que quelque chose se passât. Une obscure tristesse l'envahit sans raison. Mais un tressaillement fit danser la péniche et il se demanda qui pouvait être ce visiteur précoce. Il se dirigeait vers le salon lorsque surgit de derrière le paravent Samara Bargat. Elle s'approcha, souriante, et il la considéra avec étonnement avant de la saluer. Elle s'excusa de venir si tôt, mais il l'accueillit avec une cordialité sincère. Elle se dirigea vers le pont avec exaltation, comme si elle se trouvait pour la première fois en contact direct avec le Nil, promenant sur la langueur du couchant un regard réjoui. Elle s'attarda à contempler les acacias dont les fleurs aux couleurs vives s'harmonisaient sur fond de ciel rouge et mauve. Elle se tourna vers lui, son regard curieux rencontra le regard effronté d'Anis et il l'invita à s'asseoir. Mais elle se rendit d'abord dans la bibliothèque, à gauche de l'entrée, et parcourut les étagères avec intérêt, puis elle revint et s'installa près de la place habituelle d'Anis, au centre même du croissant. Il s'assit à son tour et renouvela ses souhaits de bienvenue pour cette visite heureuse et bénie après une absence d'une semaine. Mais il se mit à comparer ses vêtements simples, chemisier blanc et jupe grise, avec sa galabia blanche et il se dit que ce devait être à cause de son métier ou de son sérieux que l'encolure de son chemisier ne découvrait rien du creux des seins, contrairement aux autres femmes. Soudain, elle demanda. « Avez-vous vraiment été époux et père de famille ?» Sans lui laisser le temps de répondre, elle se ravisa et demanda pardon pour son indiscrétion en prétextant qu'Alia Saïd avait évoqué cela dans un de ses commentaires sur ses amis. Il acquiesça d'un hochement de tête et lisant une curiosité grandissante au fond de ses beaux yeux, couleur de miel, il répondit à son attente. « J'étais étudiant, venu de ma campagne, seul au Caire, la mère et l'enfant sont morts en un mois d'une même maladie. » Puis il ajouta simplement « Il y a 20 années de cela. » Il se souvint alors de l'histoire de la mouche et de l'araignée et pensa avec dépit qu'il avait à peine commencé son voyage. Elle hésita à prononcer quelque raison funèbre, mais lui fit connaître ses sentiments par un long silence. Elle se tourna vers la bibliothèque. « On m'a dit que vous étiez féru d'histoire et de culture, mais si je ne me trompe, vous n'écrivez pas. » Il haussa ses sourcils épais en harmonie avec l'aplat de son large et long visage au teint blafard et afficha un air à la fois goguenard et désapprobateur. Souriante, elle demanda « Pourquoi avez-vous arrêté vos études ?»« Je n'ai pas eu la chance de réussir et je n'avais plus de revenus. J'ai demandé un poste de fonctionnaire au ministère de la Santé par l'intermédiaire d'un de mes anciens professeurs. Peut-être que travailler n'est pas ce qui vous convient. Je ne regrette rien. » Il consulta sa montre, versa un peu d'alcool à brûler sur le charbon, il craqua une allumette, puis il porta le foyer sur le pont. Elle reposa sa question. « Ne vous sentez-vous pas un peu seul et ne croyez-vous pas que... » Il l'interrompit en riant. « Je n'ai guère de temps pour cela !» Elle rit à son tour. « De toute façon, je suis contente, car je vous ai trouvé à jeun cette fois. Je ne le suis pas tout à fait. » Elle suivit son regard fixé sur le charbon qui commençait à brûler et sourit. Il lui indiqua la tasse de café dont il ne restait plus que le marc. Elle se rendit à l'évidence, puis alla rendre hommage à la vie sur le Nil. Il lui confia qu'il était relativement jeune par rapport à cette si merveilleuse vie. Nous avons vécu dans de nombreux appartements et nous n'avons jamais pu échapper à la curiosité des voisins. Il émit un rire neuf et saccadé dont l'envolée légère trancha avec ce qui l'avait précédé. Elle le regarda intriguée et il s'exclama en riant. « Le voyage a commencé et tu as de beaux yeux. Mais je ne vois pas le rapport !» Il répondit d'un ton convaincu. « Il n'y a aucun rapport entre les choses. Même pas entre un coup de feu et la mort d'un homme ? Même pas. La balle est une invention réelle, tandis que la mort... « Tu sais, dit-elle en riant, je suis venue tôt pour être seule avec toi. Pourquoi ? Parce que tu es le seul qui ne parle pas. » Il fronça les sourcils, mais elle insista. « Même si tu parles tout le temps !» Le silence les sépara. Il se mit à scruter l'épaisseur de la nuit. Il prit soudain conscience que l'arrivée prématurée de la jeune femme l'avait privé de la contemplation du soir qui tombait lentement, mais il ne regrettait rien. Une toux familière résonna dehors. « C'est Amabdou, murmura-t-il. Elle se mit à parler du vieil homme avec intérêt, posant une avalanche de questions. Il lui répondit simplement qu'il ne tombait jamais malade et que rien n'avait de prise sur lui, qu'il ne savait pas son âge et qu'il s'imaginait qu'il ne mourrait jamais. « Si je vous invitais tous au Sémiramis, est-ce que vous accepteriez ?» Il répondit avec un rien d'appréhension. « Je ne pense pas et en ce qui me concerne, c'est impossible. » Il ajouta qu'il ne quittait la péniche que pour se rendre aux archives. « Il est clair que je ne vous plais pas, dit-elle. Tu es plus douce que les gouttes de rosée. » La nuit était tombée, la péniche vibra sous les pas et le vacarme envahit la passerelle. Samara s'effraya du tangage, mais il la rassura. Nous vivons sur l'eau et le moindre pas nous fait osciller.
Aishurting, irishurtan, whisky rishuddo. Aigonika, ikonaiga, udollo shuddo. Aishurting, irishurtan, whisky rishuddo. Do